aux auditeurs de Radio MDR, nous sommes dans l'émission « Leur histoire est aussi notre histoire ». Nous entamons la seconde et dernière émission consacrée à la région du Marsan à l'époque antique, c'est-à-dire à l'époque gallo-romaine, en compagnie de Didier Vignot, archéologue. Alors Didier, pendant l'émission précédente, vous nous avez parlé du Marsan antique, des habitats, des types d'habitats, de leur architecture, d'un certain nombre d'activités. Et maintenant, eh bien, nous allons voir avec vous, et en particulier, comme vous avez évoqué ces habitants du Marsan antique, leur habitat, leur mode de vie, vous avez une interrogation en revanche quant à leur mort.
Ce que l'on sait encore là, c'est que pour les périodes protohistoriques, on avait énormément de nécropoles ou de tombes qui avaient été découvertes, puisqu'on recense 48 nécropoles de la période protohistorique dans les Landes. Or, pour la période romaine, ben, on ne sait pas du tout où sont les morts, puisque on a découvert uniquement une sépulture de la période romaine, plus un site dont on ne sait pas si c'est une sépulture ou plusieurs sépultures, et donc une nécropole, mais qui a livré du mobilier de la période romaine et des traces d'incinération de corps humains. Donc là, on a, pour la période romaine, uniquement deux secteurs qui ont livré la trace de cimetières. C'est très peu, si on prend le nombre de sites. Comme j'ai dit tout à l'heure, on a 190 sites, d'un autre côté, on n'a que deux traces de sépultures ou nécropoles. Donc c'est vraiment très très peu. On ne sait pas du tout quelles étaient les pratiques funéraires de l'époque. On ne comprend toujours pas pourquoi on n'arrive pas à découvrir ces sites lors de nos travaux de recherche sur le terrain. Alors peut-être que ces sites de la période romaine sont beaucoup plus profonds, peut-être qu'il y avait des pratiques funéraires qui étaient complètement différentes de celles que l'on connaît maintenant. Voilà, donc on a vraiment du mal à comprendre où sont passés tous ces défunts de la période romaine, et j'espère que l'avenir pourra répondre à nos interrogations, et on pourra donc apprendre et comprendre surtout ce qui nous a échappé jusqu'à présent.
Là, on a parlé du monde des vivants. Vous venez aussi d'évoquer les difficultés à cerner le monde des morts. Revenons un petit peu aux activités des hommes. Vous nous avez présenté les ateliers de forge, de fabrication de meules, les tuileries, mais vous avez aussi une hypothèse très intéressante à propos d'une source de revenus qui pourrait expliquer un certain nombre de choses curieuses que vous avez constatées.
On avait vu la métallurgie, la production de moutures, on avait vu des tuileries. Par contre, il y a une production qui est induite, dont on n'a pas la trace, on n'a pas la preuve matérielle sur le terrain, c'est celle de l'exploitation de la forêt. En effet, tout à l'heure, j'ai dit que notre paysage à l'époque romaine était constitué d'une chenée mixte qui s'ouvrait de plus en plus, plus on avançait dans le temps, et plus cette forêt s'ouvrait, donc devenait de la lande. Et pour arriver à ce résultat, eh bien, il faut forcément couper la forêt, couper le bois et l'exploiter. Donc on peut imaginer aussi que, à contrario de ce que l'on a annoncé jusqu'à présent, c'est-à-dire que les landes n'étaient qu'un territoire de passage lié à l'agropastoralisme, on peut émettre une autre hypothèse contradictoire disant que les landes, comme les landes étaient une forêt, la principale source de revenus était justement l'exploitation de cette forêt. Ce qui explique beaucoup de choses, notamment pourquoi on a des habitats qui sont perdus, isolés dans le territoire, pourquoi les gens de cette période-là ont décidé de s'installer ici. Eh bien, on peut répondre maintenant, grâce aux analyses des pollens qui étaient piégés dans les tourbes, en disant que ces gens-là exploitaient la forêt. Et on peut imaginer de nombreux métiers, il n'y a pas que les métiers de bûcherons, puisqu'à l'époque romaine, on est quand même assez amateur de fourrure. On peut imaginer aussi d'autres métiers comme celui de trappeur. On peut imaginer aussi les métiers de pêcheur, les chasseurs aussi, puisque cette forêt livrait des animaux aussi en nombre assez important, puisqu'il n'y avait, pas de chasse intensive comme on le fait maintenant pour réguler les populations. Mais par contre, il y avait des prédateurs, puisque on sait qu'il y avait des loups jusque dans les années 1950. Le dernier, je crois, a été tué en 1950. Donc on sait qu'il y avait aussi des prédateurs pour ces animaux, et tous ces animaux ont été exploités aussi pour leur fourrure. Alors ça, je ne l'avance pas comme ça, alors c'est bien évidemment une pure théorie, mais qui est quand même aussi de plus en plus confirmée par les travaux qui ont été réalisés sur d'autres territoires comme en Allemagne, où on a exactement le même cas de figure d'un territoire très sablonneux qui a été occupé par une forêt. Et là, il y a eu des fouilles de l'archéologie préventive sur des grandes surfaces, ce qui leur a permis de fouiller tous les bâtiments. Et là, ils se sont aperçus qu'il y avait plusieurs animaux qui avaient été chassés, tués et consommés, et parmi lesquels on retrouve la loutre, le loup, on retrouve aussi le blaireau. Et tous ces animaux, ce sont des animaux à fourrure qui ont été exploités et chassés, bien évidemment, pour leur peau. Donc, on peut imaginer tout un tas de métiers qui travaillaient dans les Landes. La matière première dont les gens de notre territoire tiraient leur économie est forcément la forêt. Alors pourquoi l'agropastoralisme ne peut pas être considéré comme étant une source de revenus principale ? En ce qui me concerne, moi je pense que l'agropastoralisme peut être considéré comme une source liée à l'autarcie, c'est-à-dire que on doit à cette époque-là pouvoir se débrouiller tout seul, surtout pour des habitats isolés dans le paysage, pour produire ses propres céréales. Donc il faut pour cela un champ ou un jardin à cultiver, à entretenir, à exploiter. Et pour pouvoir fertiliser ces champs, à cette époque-là, le mieux était d'avoir un cheptel.
Dans la grande lande du 7e, 18e, 19e, le système agro-pastoral permettait de fertiliser les champs. Il fallait environ 100 brebis pour produire 60 tonnes de fumier, qui fertilisait 4 hectares de champs. Et ainsi, on pouvait obtenir quand même 4 tonnes de céréales, c'est-à-dire en fait 4 tonnes de pain qui permettaient de nourrir donc une famille d'une dizaine de personnes. Mais ça, c'était donc sur une période beaucoup plus proche de nous que l'Antiquité.
100 têtes, c'est énorme. Je pense pas que les petits habitats qui se trouvaient paumés au milieu de la forêt pouvaient se permettre d'avoir un cheptel de 100 têtes. Néanmoins, le régime alimentaire qu'ils pouvaient avoir pouvait être compensé aussi avec toutes les ressources de la forêt. On peut imaginer de nombreuses ressources. Il y a des fruits, des baies, il y a aussi le poisson, le gibier. Pour ces habitats-là, il n'y avait pas qu'un régime alimentaire basé uniquement sur des céréales. Alors je vous ai parlé tout à l'heure de 4 hectares. Alors pourquoi ? Parce que là encore les études allemandes et d'autres études que j'ai réalisées au cours de mon master ont montré qu'un habitat de cette époque était en général constitué de 6 à 8 personnes et que pour nourrir ces 6 à 8 personnes avec un régime basé à 95% sur des céréales, il fallait pouvoir exploiter un champ de 4 hectares. Voilà, donc ce chiffre de 4 hectares, il n'est pas là par hasard. 4 hectares, comme je l'ai dit, c'est pas mal pour un territoire forestier. Donc il faut pouvoir ouvrir sur 4 hectares, il faut surtout avoir un cheptel pour pouvoir fertiliser ces champs. Alors ça, ces 4 hectares plus un cheptel, c'était tout à fait possible de l'avoir lorsque vous avez des regroupements d'habitats du type village. Lorsqu'il y a des agglomérations, des petites agglomérations, il pouvait y avoir une partie de la population qui était dédiée à l'agropastoralisme justement, tandis qu'une autre partie de la population avait une autre source de revenus. Mais lorsqu'on avait des bâtiments assez isolés, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était assez compliqué de pouvoir pratiquer l'agropastoralisme. Il est assez difficile dans le sable des Landes d'avoir de l'agropastoralisme de façon industrielle, parce que pour passer à un agropastoralisme industriel, cela signifie que chaque habitat doit dépasser les 4 hectares de production agricole et les 100 têtes de bétail. Que ça devient un petit peu compliqué de gérer ceci, au moins pour l'époque romaine, sachant qu'on est sous couvert forestier, je le rappelle. On a une chenille mixte qui s'ouvre de plus en plus, certes, mais on a quand même une chenille mixte dans les Landes. Alors même si on pouvait avoir ce cas de figure de dépasser les 4 hectares et 100 têtes de bétail au 19e siècle, qui était un territoire uniquement constitué de Landes, c'est extrêmement compliqué pour l'époque romaine. Pour l'époque romaine, notre région d'étude, c'est-à-dire le nord de la Dour, là ne va pas être un territoire qui sera propice pour pouvoir pratiquer l'agropastoralisme de façon extensive. Pour l'autarcie, oui. Pour la production industrielle, non.
Nous arrivons maintenant à la fin de cette première partie. Puisqu'il faut faire une petite pause musicale, qu'est-ce que vous nous proposez ?
C'est une chanson qui date un petit peu maintenant, mais qui bouge assez. Il faut d'ailleurs un petit peu augmenter le volume pour pouvoir l'écouter. Et c'est une chanson qui est interprétée par Just a Man et qui s'appelle I'm Sorry.
I can't stay here anymore. I made you cry, if I said a lie, I am just a man. Please give me your hand. Misunderstood. I never promised. I don't want your love, no. I thought we could just be friends. You better hear me. I cannot pretend.
Nous sommes dans l'émission « Leur histoire est aussi notre histoire » et que nous sommes en compagnie de Didier Vigneault, archéologue. Didier, dans la première partie, vous avez expliqué quelles étaient donc les activités des hommes. Tout ce que vous venez de présenter durant ces émissions modifie complètement l'idée que l'on pouvait se faire des Landes, puisqu'on a longtemps cru que les Landes étaient un véritable désert, pratiquement depuis toujours, alors qu'il n'en est rien, puisqu'elle a d'abord été recouverte d'une grande forêt. Cette forêt, eh bien, les hommes, finalement, de par leur utilisation intensive, ont fini par la transformer en lande. Ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement, ça remet en cause l'idée que l'on pouvait se faire également des habitants. Je crois que vous allez nous en dire quelques mots.
On s'aperçoit que, là, en fait, nous avons un territoire qui, autrefois, était considéré comme un territoire particulier, puisque on se basait encore sur nos acquis du 19e siècle, disant que notre territoire était constitué de landes marécageuses, blablabla. Donc, cela, il faut l'oublier. Notre territoire a été jusqu'à l'entour de 600-1200 un territoire sous couvert forestier où il y avait une économie qui était basée sur la forêt. Cette économie forestière a engendré des revenus. La preuve en est, c'est qu'à l'époque romaine, tous les habitats possèdent les céramiques industrielles de la période romaine. C'est-à-dire que pour posséder ces céramiques industrielles qui étaient fabriquées dans des gros ateliers, il fallait pratiquer un commerce. Il fallait donc avoir des moyens d'échange. Et ces moyens d'échange, outre la monnaie, pouvaient être le troc, mais un troc basé sur quoi? Je doute qu'on allait chercher du côté de l'Inquac du bétail pour lui faire traverser tout le bassin de la Midouze et les acheminer jusqu'à Dax. Donc il devait y avoir d'autres façons de commercer. Et il faut savoir aussi que tous les habitats que je vous ai montrés sont liés au réseau hydrographique du bassin de la Midouze. Alors ce réseau hydrographique, quand il a un écoulement qui est nord-sud depuis est-ouest, et donc qui va en gros sur Dax, puis l'océan Atlantique. Voilà, donc on a ce réseau hydrographique qui a joué certainement de vecteur de communication pour la période romaine. Et comme je le disais, on a donc un territoire qui n'a rien à envier aux autres territoires, si ce n'est la faiblesse du nombre de villas, donc de bâtiments riches. Mais si on imagine qu'on a un territoire qui est constitué uniquement de forêts avec des terres qui ne sont pas du tout agricoles, l'absence de villas sur ces territoires peut s'expliquer puisque, en général, les villas venaient s'implanter sur des territoires qui étaient assez riches, agricoles aussi. Donc ce n'est pas le cas chez nous. Ça, c'est une raison aussi pour expliquer le faible nombre de villas que l'on a sur notre territoire. Pour maintenant conclure définitivement, voilà, je dirais que à l'époque romaine, les Landes c'était comme ailleurs. L'homme a occupé son territoire, l'a exploité jusqu'à l'extrême. C'est là où justement vient la particularité de notre territoire, c'est qu'il a été exploité jusqu'à l'extrême. C'est-à-dire qu'on a commencé avec une forêt, on a fini avec des landes. Cela montre que déjà à cette époque-là, hein, on pouvait déjà parler de dommages écologiques, puisque la forêt avait complètement disparu. Alors pourquoi cette forêt a complètement disparu? Parce que la première essence qui va repousser dans les Landes, c'est du chêne. Pour obtenir un chêne qui soit viable de façon à pouvoir exploiter son bois, il faut attendre au moins une centaine d'années. Tout cela montre que notre territoire a été exploité de façon intensive, hein, jusqu'à la fin de la période romaine, et a été exploité par des gens qui vivaient déjà dans les Landes, qui habitaient déjà dans les Landes, qui commerçaient déjà dans les Landes, et les Landes n'ont pas échappé, surtout la région du Marsan, n'ont pas échappé à la règle. Hein, on a eu une expansion des besoins de production à la période romaine, hein, certainement pour alimenter toutes les villes déjà, et ensuite alimenter certainement Rome. Alors quand je dis Rome, c'est pas que le bois landais allait à Rome, hein, c'est que il fallait alimenter les grosses villes, et il fallait aussi peut-être alimenter les navires de commerce romain qu'il devait y avoir sur la côte atlantique. Ce qui fait que la forêt landaise a été exploitée jusqu'au possible. Voilà.
Et si nous parlions un petit peu de Mont-de-Marsan ? Mont-de-Marsan, qui est donc la capitale administrative des Landes, qui a été fondée seulement au Moyen-Âge, entre 1133 et 1141, par le vicomte de Marsan-Pierre. Mont-de-Marsan, donc, n'était pas une ville avant, mais de nombreuses fouilles archéologiques ont quand même montré qu'il y avait des traces d'occupation romaine, et vous allez nous en parler maintenant.
Le site de confluence de Mont-de-Marsan était occupé sur toute sa surface dès l'époque romaine, voire aux époques plus anciennes, notamment au bronze final, où on a une énorme occupation du site de confluence au cours de cette époque. Et cette occupation a continué jusqu'à l'époque romaine, puisqu'on a découvert des amphores en quantité assez importante entre les musées et la confluence. Ce nombre d'amphores est quand même assez atypique dans notre région, puisqu'en général, ces amphores se trouvent qu'en contexte d'agglomération. Donc je ne vais pas dire que Mont-de-Marsan était une agglomération secondaire, puisqu'on n'en a malheureusement pas assez de preuves. Hein. Alors pourquoi on n'a pas de preuves? Parce qu'il n'y a pas eu assez d'archéologie préventive au cours des siècles sur la ville, et qu'on a donc très peu d'informations sur les travaux qui ont eu lieu sur le secteur de la confluence. Par contre, quand il y a eu des travaux, ces travaux ont montré qu'il y avait une occupation de l'époque romaine, et qu'il y avait même des bâtiments construits à l'époque romaine. Hein. Parce qu'on a retrouvé des bâtiments construits sur poteaux porteurs dans différents endroits de la ville, ce qui montre que le site de Mont-de-Marsan possédait des habitats. Donc, comme je l'ai dit, à l'époque romaine, on a au moins pour le premier siècle, on a une grosse occupation sur le site de Mont-de-Marsan. Cette occupation semble continuer au 3e siècle et 4e siècle, puisqu'on a des indices. Hein, malheureusement, tous les niveaux de cette époque-là ont été détruits. Donc on a des indices de fréquentation de ce site à cette époque. Et il y a même une théorie qui, je pense, de plus en plus viable, disant que Mont-de-Marsan était un petit port. Alors, faut pas avoir non plus un gros port avec des gabarres, mais on peut imaginer un petit port de commerce qui acheminait tous les produits, notamment vers Dax. Ou pourquoi pas aussi vers Goutz, hein, qui était une agglomération secondaire qui n'est pas très loin située pas très loin de la Midouze, sur lequel on a découvert deux voies romaines importantes. Donc il était tout à fait possible d'acheminer des produits économiques entre Mont-de-Marsan et Dax via le réseau fluvial.
À plusieurs reprises, vous avez évoqué les échanges entre les hommes, que ce soit les échanges à l'intérieur du Marsan ou même les échanges communication avec d'autres régions plus lointaines comme le Médoc d'ailleurs. Alors, ces échanges se faisaient bien aussi par voie terrestre, et j'aimerais qu'on parle un peu des voies romaines en particulier.
Pour les voies romaines. Alors, quand on parle de voies romaines, notamment dans notre région, il ne faut pas s'attendre à trouver des chemins richement pavés, bien construits. Donc quand on parle de voies romaines, on parle, nous, dans notre langage d'archéologue, d'un réseau viaire, un réseau de communication. Et ce réseau de communication est pluriel, c'est-à-dire qu'on peut trouver des chemins, des voies plus ou moins importantes, des voies aménagées ou non,
Voilà, donc ce que l'on sait, nous, dans le département, dans la région, dans le bassin de la Midouze plus particulièrement, c'est qu'on connaît plusieurs chaussées qui sont assurément romaines. On en connaît deux sur la commune de Goutz et deux sur la commune de Huchac. Ces chaussées romaines sont constituées d'une superposition de galets insérés dans du sable qui est ensuite damé. Le tout est en élévation par rapport au terrain et cela permet en général le transport de gros chargements de marchandises. Donc ces chaussées romaines sont constituées donc pour permettre à de grosses charges de circuler, mais elles ont été réalisées pour faciliter le commerce. Le réseau viaire de l'époque romaine s'appuie, et ça on en a plusieurs preuves, sur un réseau existant antérieurement. Donc les Romains n'ont pas forcément construit de voie romaine, peut-être l'ont-ils fait dans un seul cas, qui est la voie interne qui relie Bordeaux à Dax. Cette voie-là, on la connaît grâce notamment à certaines interventions de l'archéologie aérienne. On connaissait avant la voie littorale, donc une voie qui partait de Bordeaux, qui longeait Sanguinet et toute la côte pour ensuite bifurquer vers Dax. Donc ça, ce sont les deux principales voies que l'on connaissait. Mais ces voies romaines s'appuient en général sur des voies qui existaient déjà bien avant l'époque romaine. Cela, on l'a démontré il n'y a pas très longtemps lors des travaux que j'ai réalisés, notamment sur Goutz ou sur Huchac, où là, très clairement, les voies romaines longent des habitats de l'âge du bronze, c'est-à-dire aux alentours de 1600-1800 avant Jésus.
En tous les cas, Didier, merci beaucoup pour toutes ces informations qui renouvellent d'une façon extrêmement importante la connaissance et la vision que l'on avait du Marsan, qui n'était absolument pas une région pauvre et déshéritée comme on l'a souvent décrit, mais qui au contraire était une région originale où les hommes ont vécu finalement assez nombreux pendant des siècles.
On a beaucoup de choses sur la période romaine à cette époque dans notre région d'études. Comme je l'ai dit, les travaux de recherche continuent toujours et j'espère d'ici quelques années on pourra apporter encore plus d'informations sur notre belle région.
Alors Didier, puisque nous arrivons à la fin de ces émissions consacrées aux Landes à l'époque gallo-romaine, vous allez clôturer en nous proposant de la musique.
Toujours dans le thème de la période romaine, je vous propose la musique du film Gladiator, qui était une musique écrite par Hans Zimmer et interprétée par Lisa Gerrard, Now We Are Free.
Merci Didier pour ce choix de musique, qui est une musique à la fois belle et émouvante, qui clôture le film Gladiator. Alors Didier, nous allons bientôt nous revoir à l'occasion de questions que vous me poserez sur le Moyen-Âge. Mais en attendant, je vous remercie de nous avoir consacré à Radio MDM et à l'émission Leur Histoire est aussi notre histoire, de nous avoir consacré du temps pour nous expliquer ce qu'était la période de la préhistoire, puis ensuite l'âge du bronze, l'âge du fer et les Landes à l'époque gallo-romaine pour cette région du Marsan. À Dichatz.
Je vous dis à bientôt.